Alors, tout le monde est présent, les présences sont écrites. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal tenue exceptionnellement à huis clos le 28 avril 2020 à 14h30 à l'Hôtel de Ville, situé au 3000 chemin d'Oka, quant au personnel cadre. Les autres sont tous via téléphone. Alors, avant de débuter, chères citoyennes et chers citoyens, Madame la conseillère, messieurs les conseillers, avant de débuter, j'invite les membres du conseil ainsi que les citoyens à se joindre à moi pour une minute de silence pour se souvenir de cette grande épreuve collective du 27 avril 2019. Profitons également de ce moment de recueillement pour penser aux personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, ainsi qu'à leurs proches et toutes les personnes qui, de près ou de loin, se dévouent pour l'ensemble de la population.
Allô?
Je félicite également les Martelacoises et les Martelacois de se conformer de manière aussi exemplaire aux directives de la santé publique afin de protéger leurs concitoyens. Je salue également toutes les citoyennes et tous les citoyens âgés de plus de 70 ans et qui sont confinés à la maison. Nous pensons à vous et la Ville maintient un contact téléphonique avec ceux qui en ont exprimé le besoin. J'en profite pour dire aux enfants, petits-enfants et amis de ces sages concitoyens de les appeler régulièrement. C'est important de demeurer solidaire. Au moment où vous nous écoutez, le gouvernement du Québec vient d'annoncer de nouvelles mesures de déconfinement relatives aux activités économiques. Ces mesures permettront sur notre territoire la réouverture des commerces ayant une entrée qui donne sur une rue, un stationnement ou une voie publique, et ce, à compter du 11 mai prochain. C'est une bonne nouvelle pour les commerçants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de la région. La Ville demeure en attente des prochaines directives de la santé, de la Direction de la santé publique quant à certaines activités municipales. Je sais que plusieurs d'entre vous ont des questions à ce sujet, notamment en ce qui concerne les camps de jour et l'accès à la plage municipale de la Sablière. Dans ces deux cas, nous sommes toujours en attente des directives gouvernementales. Surveillez notre site Web et notre page Facebook pour connaître les derniers développements. En consultant ces deux plateformes, vous avez sûrement appris que la Ville a décidé de reporter l'assemblée de consultation sur le projet de délimitation du territoire en districts électoraux en raison du contexte de la COVID-19. Je vous rappelle également que la collecte des gros rebuts reprendra son horaire habituel en mai. Une collecte aura exceptionnellement lieu demain, le mercredi 29 avril. Alors, assurez-vous de bien respecter les consignes que vous trouverez sur notre site Web. C'est également depuis ce matin que vous pouvez disposer de vos matériaux secs au garage municipal, et ce, sans aucun frais. Nous débutons avec un horaire du lundi au vendredi pour le dépôt des matériaux secs, mais au mois de mai, nous annoncerons la date de la reprise de l'horaire du week-end, car le contexte de la COVID-19 nous invite à la prudence et à la reprise graduelle des activités. Comme vous le savez sans doute, les travaux de sécurisation de la digue sont maintenant terminés. L'entrepreneur s'affaire depuis les dernières semaines à installer des infrastructures pour faciliter le drainage du territoire vers le lac. Des travaux de finition se dérouleront au cours de l'été qui vient, notamment le gazonnement. Il est important de souligner qu'en dépit de l'actuelle crue printanière et de vents violents ayant provoqué de fortes vagues ces derniers jours, aucun incident n'a été rapporté car la hauteur et la solidité de la digue protègent les résidents du sud du chemin d'Oka. Cela m'amène à répondre à une interrogation de citoyens relativement aux descentes de bateaux. Il nous est impossible pour le moment de garantir aux plaisanciers l'accès du lac à même notre territoire en 2020. Des travaux doivent être réalisés à ce sujet, mais nous travaillons sur d'autres options afin de vous permettre de profiter de la navigation sur le lac des Deux-Montagnes. Surveillez à nouveau notre page Facebook et notre site web dans les prochaines semaines. Je vous mentionne également que nous sommes en discussion avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant les demandes de dérogation mineure dans la zone d'intervention spéciale, à savoir la ZIS. En effet, il est interdit à la Ville d'accorder des dérogations mineures dans cette zone, mais il faut faire preuve de gros bon sens, y aller dossier par dossier, cas par cas, afin d'aider les citoyens qui en ont fait la demande. C'est ce qui est sur la table avec le ministère. En terminant, malgré un contexte qui n'est pas facile pour personne, je sais que nous sommes capables de solidarité, de résilience et d'optimisme. Ensemble, on va s'en sortir. Alors, merci. Nous allons passer à l'Assemblée. Alors, nous allons passer au point numéro 1, l'ordre du jour.
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
Qu'il propose.
François Racine le propose.
Qu'il l'appuie. Monsieur. Qu'il l'appuie.
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Merci. Point numéro 2, procès-verbal adoption.
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020 tel que soumis.
Qu'il propose.
Yves Legault le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Yves Blanc l'appuie.
Passons au point numéro 3, liste des comptes à payer, adoption.
Il est résolu d'adopter les listes des comptes à payer en date du 28 avril 2020, à savoir le registre des chèques émis pour le mois précédent, fonds d'administration totalisant la somme de 346 002,64 $, liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 401 672,62 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme de 4 729 622,79 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Racine l'appuie.
Alors, nous allons passer au point numéro 5, les règlements. 5.1, règlement 678-2, modifiant le règlement 678, décrétant une dépense et un emprunt de $49,605,000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement 678, décrétant un emprunt et une dépense de $43,611,000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue lors de la séance extraordinaire du 19 août 2019. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté le règlement 678-1, modifiant le règlement 678 décrétant un emprunt de $43,611,000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de $5,994,000 lors de la séance du 28 janvier 2020. Considérant que le règlement 678 porte maintenant le titre suivant, règlement numéro 678 décrétant une dépense et un emprunt de $49,605,000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 678 afin d'en modifier une disposition et de la clarifier. Considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement 678-2, modifiant le règlement 678, décrétant une dépense et un emprunt de $49,605,000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 2 jours avant la séance et qu'aucune modification n'a été réalisée au projet de règlement pour adoption finale.
Qu'il propose?
Et le vote propose.
Appuyé par?
François Racine.
Point numéro 6, demande de dérogation mineure, propriété cise au 3078 rue du Blizzard. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie totale de 83 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire se prononcer quant à cette demande de dérogation mineure? Non? Alors, nous allons passer au point 6.1, demande de dérogation mineure quant à la propriété cise au 3078 rue du Blizzard.
Considérant qu'en date du 3 mars 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire d'une superficie totale de 83 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2020-03-45, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la délivrance d'un certificat d'occupation pour ajouter un numéro civique supplémentaire pour le 3078 rue du Blizzard, considérant que les travaux sont déjà effectués selon les plans soumis par le permis de rénovation émis en 2018, considérant que le logement respecte les autres normes prévues à l'article 2.8.4 du règlement de zonage, considérant que l'application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3078 rue du Blizzard.
Alors, qui le propose?
Frédéric Lancé, je le propose.
Et qui l'appuie?
François Jacin, l'appuie.
6.2, demande de PIA quant à la propriété cise au 3055, chemin d'Oka.
Considérant qu'en date du 3 mars 2020, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de permettre l'implantation d'une enseigne commerciale sise au 3055 chemin d'Oka, considérant que la demande de PIA rencontre les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA afin d'atteindre l'objectif poursuivi, considérant la recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme par la résolution numéro CCU 2020-03-41. En conséquence, il est résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2020-0013 pour l'implantation de l'enseigne pour la propriété sise au 3055 chemin d'Oka tel que déposé.
Qui le propose?
François Jacin le propose.
Qui l'appuie?
Frédéric Lantier, je l'appuie.
7.1, accord, tribunal administratif du travail, employé 06579, autorisation de signature.
Considérant le dossier 700-152-63-1905 au tribunal administratif du Québec entre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et l'employé numéro 06579 en matière de prestations prévues à la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, considérant que les parties sont arrivées à une entente hors cours afin de régler ce dossier, en conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l'accord intervenu dans le dossier 700-152-63-1905 entre la ville et l'employé numéro 06579, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.
Qu'il propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Tanguy Lejeunesse l'appuie.
Nous allons passer au point 7.2, politique d'aide financière, relogement des citoyens sinistrés, modification avril 2020.
Considérant que, suivant l'étude de plusieurs demandes en vertu de la politique d'aide financière, la Ville a constaté que le respect du délai de 3 mois pour la présentation de la demande et le paiement du droit de mutation pouvait parfois s'avérer difficile à respecter, considérant que la Ville a décidé de prolonger ce délai à 6 mois afin de permettre à plus de citoyens admissibles de bénéficier de cette aide financière. En conséquence, il est résolu d'adopter la politique d'aide financière « Relogement des citoyens sinistrés » telle que modifiée en avril 2020.
Alors, qui le propose?
Frédéric Lancé, je le propose.
Qui l'appuie?
Tanguy Lejeunesse l'appuie.
7.3, convention relative à l'octroi d'une aide financière, fonds de soutien au développement local, autorisation de signature.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire se prévaloir du programme d'aide financière dans le cadre de la politique du fonds de soutien au développement local, le FSDL, pour son projet de passerelle au parc de la Frayère, considérant que pour ce faire, la Ville doit signer une convention relative à cette aide financière. En conséquence, il est résolu d'autoriser le directeur général, M. Carl Scanlan, à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la convention relative à l'octroi d'une aide financière du Fonds de soutien et au développement local, ainsi que tout autre document pour donner plein effet à la présente résolution.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Jean Guizot l'appuie.
7.4, maison de soins palliatifs Cercan, aide financière.
Considérant la demande de contribution financière reçue de la maison de soins palliatifs Cercan, considérant les soins de qualité offerts gratuitement à la maison de soins palliatifs Cercan ainsi que les services d'accompagnement aux gens atteints de cancer et aux personnes endeuillées, considérant notre volonté de maintenir ces services au sein de notre région, en conséquence, il est résolu de verser la somme de 500 $ à la maison des soins palliatifs Cercan à titre d'aide financière de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Qui le propose?
Frédéric Lancé, je le propose.
Et qui l'appuie?
Jean-Yves je l'appuie.
7.5, désignation pour l'application du règlement sur les chiens dangereux.
Considérant que l'article 5 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit que toute municipalité locale est chargée de l'application sur son territoire d'un règlement pris en application de la présente loi. À cette fin, la municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de cette municipalité afin de veiller à son application. Considérant l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, en conséquence, il est résolu de désigner les employés du service de l'urbanisme ainsi que l'entreprise mandatée par la Ville pour le contrôle animalier et la régie de police du lac des Deux-Montagnes comme personnes et organismes habilités à l'application du règlement de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Qui le propose?
Frédéric Lancé, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guillaume, je l'appuie.
7.6, vidange des boues des étangs aérés 2020 de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est desservie par l'infrastructure d'assainissement des eaux usées de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes, considérant que le processus d'assainissement des eaux usées implique une accumulation de boue dans les étangs, considérant que le degré de performance de l'infrastructure d'assainissement est affecté par le pourcentage de boue dans un étang, considérant le rapport de mesure des boues réalisé par la firme BC2 au mois de janvier 2020, à l'effet que le volume de boue dans les cellules 1B et 2A est important et supérieur au cadre de référence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH, considérant la recommandation du conseil d'administration de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes de procéder à la vidange des boues en 2020 par le biais de la résolution RT032-04-2020, considérant l'entente intermunicipale entre les villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet relative à la construction et à l'exploitation d'ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées, considérant que la dépense totale estimée est de 361 842 $, incluant les contingences, les frais de coordination, de surveillance, de laboratoire et les taxes nettes, considérant que la dépense sera payée par le biais de code-part émise par la régie aux quatre municipalités visées par l'entente intermunicipale. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac entérine la recommandation du conseil d'administration de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes de procéder aux travaux de la vidange des boues 2020 des étangs aérés selon les tonnages et les coûts estimés, que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac convient d'acquitter sa quote-part selon la répartition des pourcentages suivants. Deux-Montagnes, répartition 48%, montant de la dépense 173 684 $. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 33%, montant de 119 408 $. Saint-Joseph-du-Lac, 17%, montant de 61 513 $. Pointe-Calumet, 2%, montant de la dépense 7 237 $ pour un total de 361 842 $.
Qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Alors, nous allons passer au point numéro 9, la trésorerie. 9.1, émission de billets, concordance.
Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 409 000 $ qui sera réalisé le 5 mai 2020, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 652 pour le montant de 1 409 000 $ Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 652, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 5 mai 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 5 mai et le 5 novembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la secrétaire trésorière ou la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2021, 125 500. En 2022, 128 700. En 2023, 131 900 $ En 2024, 135 300. En 2025, 138 800 donc à payer en 2025 et renouvelable en 2025, 748 840 $ Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2026 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 652 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 mai 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Qui le propose?
Yves Legault, je le propose.
Qui l'appuie?
François Lapine l'appuie.
9.2, émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique, adjudication.
Madame Paulus, et François Rabiard, j'ai deux questions concernant cette résolution-là. Dans le préambule, là, au numéro 3, là, on parle du maire, du secrétaire trésorier ou de la trésorière. Mais secrétaire trésorier, est-ce qu'on parle du directeur général ou à ce moment-là qu'on a un poste de secrétaire trésorier?
Juste un instant, là, M. Robillard, parce que c'est libellé comme ça, parce que les municipalités ont des secrétaires trésoriers, M. Rabillard.
Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a des municipalités qui n'ont pas de directeur général, c'est un secrétaire trésorier. Mais est-ce que dans le libellé, est-ce que ça veut dire que le directeur général est...
Non, c'est la trésorière, M. Rabillard, c'est bien indiqué où. Regardez-le, là, votre libellé.
Ben, le libellé, c'est par le maire et le secrétaire trésorier ou la trésorière.
C'est ça. Alors, c'est le maire ou la trésorière.
OK, parfait. Puis, le règlement 652, c'est quel règlement d'emprunt, ça?
Il s'agit de l'entrée d'autoroute.
OK, parfait. Merci.
9.2. Émission de billets à la suite d'une demande de soumission publique, adjudication.
Considérant que, conformément au règlement d'emprunt numéro 652, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série de billets, soit un billet par échéance. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 5 mai 2020 au montant de 1 409 000 $ Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de billets désignés ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, soit Banque Royale du Canada pour un prix de 100,00, coût réel 2,13%. Deuxième soumission, Caisse des Jardins de Saint-Eustache, Deux-Montagnes, prix 100,00, coût réel 2,13%. Troisième soumission de Financière Banque Nationale Incorporée, prix 98,8850, coût réel 2,2189,2%. Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique qu'il y a égalité entre les soumissions déposées, Celle-ci présentant les conditions les plus avantageuses, le ministre des Finances a procédé à un tirage au sort afin de sélectionner le soumissionnaire gagnant parmi les offres ex aequo, conformément au processus prévu dans de telles circonstances. À la suite de ce tirage au sort, la soumission gagnante est celle déposée par la firme Banque Royale du Canada. En conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 5 mai 2020 au montant de 1 409 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 652. Ces billets sont émis au prix de 100,00 pour chaque 100 $ valeur nominale de billet, échéance en série 5 ans. Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
Qu'il propose?
Je propose, il le vaut.
Qu'il appuie?
Moi, je donne l'appui.
Alors, nous allons passer au point 10.1, mandat du comité de pilotage de la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, et du comité de suivi.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté la résolution 2018-04-109 lors de la séance du 23 avril 2018 afin de nommer les membres du comité de pilotage de la démarche MADA, considérant que le mandat du comité comprend les activités suivantes, s'assurer de l'élaboration de la démarche MADA incluant les volets saines habitudes de vie en étant à l'écoute des besoins et des attentes de la population et en recommandant des projets porteurs de préoccupations aînées et saines habitudes de vie, proposer un projet de politique, un plan d'action et les budgets nécessaires au conseil municipal, s'assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la démarche MADA, incluant le volet saines habitudes de vie, assister le conseil dans l'étude des dossiers susceptibles de faire l'objet d'un règlement ou de politique ayant une incidence sur la démarche MADA, incluant encore une fois les saines habitudes de vie, jouer un rôle consultatif et de vigilance, identifier les stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à intégrer le principe « penser et agir aîné », sensibiliser les décideurs à l'importance des aînés et des services de saines habitudes de vie dans tout le processus de décision, et ce, quel que soit le champ d'intervention. En conséquence, il est résolu que le comité de pilotage soit composé des membres suivants: Monsieur Jean Guiblot, conseiller municipal responsable des questions aînées et représentant du Carrefour d'aide Marthe-à-la-Croix et de la Popote Roulante. Monsieur Jean-Guy Lajeunesse, conseiller municipal responsable des questions aînées. Agent de liaison en milieu municipal, une personne à déterminer, le CISSS des Laurentides, direction de la santé publique. Nicole Mercier, citoyenne et présidente du Cercle des fermières. Madame Vicky Pépin, directrice des services de loisirs, des arts et de la vie communautaire. M. Gabriel Trahan, citoyen. Mme Hélène Martineau, travailleuse de milieu auprès des aînés, Carrefour, Action bénévole, les artisans de l'aide. Mme Alexandra Brunet, agente socio-communautaire, régie de la police du lac des Deux-Montagnes.
Qui le propose?
Jean Guillaume, je le propose.
Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse.
10.2, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides.
Considérant que le camp d'été de Sainte-Marthe-sur-le-Lac offre un programme d'accompagnement pour les enfants vivant avec des défis, considérant que le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées vient en soutien à l'accompagnement et aux initiatives locales, considérant la situation pandémique et le fait que les mesures gouvernementales de distanciation sociale pourraient empêcher la tenue du camp d'été, mais que la demande d'assistance financière doit être déposée avant le 20 mai 2020, en conséquence, il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs, des arts et de la vie communautaire à formuler une demande d'assistance à l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées des Laurentides, d'autoriser celle-ci à signer tous les documents relatifs à la demande d'assistance financière.
Qu'il propose?
Jean Guibneau, je le propose.
Qui l'appuie? Qui l'appuie?
Jean-Guy Lajeunesse l'appuie.
Nous allons passer au point 13.1, imperméabilisation, renforcement et rehaussement de la digue en Remblai, SP 2019-017, dépassement de coûts, autorisation.
Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2019-017 pour l'imperméabilisation, le renforcement et le rehaussement de la digue à l'entreprise Duroquin Construction par sa résolution 2019-08-177, considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires de 188 927 $, considérant que l'article 60 du règlement 677 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coût de plus de 25 000 $ doit être approuvé par la résolution du conseil municipal. En conséquence, il est résolu d'autoriser le paiement supplémentaire de 188 927 $ plus toute taxe applicable à l'entreprise Duroquin Construction pour les dépassements de coûts quant au contrat SP-2019-017 relatif à l'imperméabilisation, au renforcement et au rehaussement de la digue en remblai.
Alors, pour votre information, il s'agit de coûts supplémentaires dus à l'enrochement. Alors, qui le propose?
Yves Legault propose.
Qui l'appuie?
François Rotten l'appuie.
Alors, maintenant, nous allons passer au point numéro 15, à savoir les dépôts.
Dépôt du rapport mensuel des permis de construction pour le mois de mars 2020. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions pour le mois de mars 2020. Dépôt du rapport du directeur général concernant la signature des contrats.
Alors, nous allons passer à la période de questions. Alors, nous allons vous faire la lecture des questions qui nous ont été transmises par courriel par les citoyens. Nous avons évidemment résumé les questions afin d'y aller avec l'essentiel de la demande.
Question de M. Dominique Bélan au 3136 Boulevard des Pins. Est-ce qu'il est vrai que le service des incendies qui comporte présentement des pompiers volontaires changera pour avoir des pompiers à temps plein? Et si oui, est-ce que cela va engendrer une augmentation des taxes?
Alors, nous avons déjà des pompiers à temps plein, mais effectivement, nous avons été avisés par la ville de Deux-Montagnes de cette intention de remplacer les pompiers temporaires par des temps pleins. Et évidemment, si cela se concrétise, ça pourrait effectivement se traduire en une augmentation des taxes. C'est la raison pour laquelle la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'est objectée à cette demande.
Il n'y aurait plus de camions de pompe à la caserne de pompiers sur le boulevard des Promenades. Sommes-nous toujours aussi bien protégés?
Le camion pompe est présentement en réparation et devrait revenir cette semaine. Et oui, le service des incendies s'assure que nous soyons très bien protégés.
Question de Mme Joanne Martel au 2974 rue Sauvé. Mme Martel nous mentionne être inquiète parce qu'elle voit des automobiles et des camions qui circulent sur la digue en utilisant le chemin d'accès au bout de la 20e avenue.
Nous avons informé la régie de police du lac des Deux-Montagnes de la situation. Toutefois, si quelqu'un a connaissance d'une telle situation, s'il vous plaît, communiquez directement avec la police au 450-974-5300.
À quand l'ouverture de la rampe de mise à l'eau sur la 13e avenue? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives?
Les rampes de mise à l'eau au niveau de la 13e avenue et de la 45e avenue doivent être réaménagées dans le cours des travaux de renforcement de la digue. Malheureusement, dû à la hauteur actuelle du niveau de l'eau du lac des Deux-Montagnes, nous ne pouvons pas débuter les travaux présentement. Nous sommes à la recherche d'une alternative afin que les citoyens qui ont une embarcation puissent la mettre à l'eau à proximité. Toutefois, ce n'est pas une chose qui est très facile parce que dans les villes limitrophes, soit Pointe-Calumet et Deux-Montagnes, les stationnements adjacents aux rampes de mise à l'eau sont très limités. Et ils sont donc exclusivement réservés aux citoyens de ces villes. Nous avons aussi regardé avec la ville d'Oka, mais là encore, il n'y a pas de possibilité quant au stationnement. Il y aurait peut-être des marinas privés ou même le parc d'Oka, mais pour le moment, ceux-ci sont fermés. Alors, nous n'avons pu faire de vérification à ce jour. Il y a une possibilité de descendre les embarcations à la 26e avenue à Deux-Montagnes, mais il n'y a pas de place de stationnement. Je sais que l'année dernière, les gens le faisaient. On continue nos recherches et si la possibilité d'une entente avec une autre ville ou une marina privée s'avérait possible, nous en informerons notre population via nos réseaux sociaux. Mais nous travaillons actuellement le dossier.
Question encore de Mme Martel. Mme Martel mentionne que plusieurs citoyens font des feux à ciel ouvert à tout moment dans la journée, malgré le fait que le règlement ne le permette pas. Elle mentionne que l'odeur est désagréable, empêche d'étendre le linge sur la corde et de profiter de l'air frais.
Alors, vous deviez communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte. Ceux-ci interviendront rapidement. Le nom de la personne qui fait la plainte demeure anonyme. Nous avons été informés par le service des incendies qu'il s'agit d'un problème présent dans toute la région des Basses-Laurentides actuellement. Avec le confinement, j'imagine que les gens qui doivent rester à la maison tentent de faire des feux à ciel ouvert malgré ces interdictions.
Question de M. Patrick Laniel du 212 33e Avenue. M. Laniel demande à la Ville de revoir le zonage de la zone H710 afin de restreindre la construction de bâtiments multifamiliaux, des logements. Il mentionne qu'une pétition circule à ce sujet.
Alors, oui, on a reçu la demande. On n'a pas reçu la pétition de monsieur, mais la demande va être acheminée au comité consultatif d'urbanisme pour analyse et recommandation aux membres du conseil.
Question de monsieur Alain Dominique du 9 19e Avenue. Monsieur Dominique demande s'il est prévu d'aménager des accès au bout de certaines avenues afin de pouvoir profiter de la berge.
Oui, tout cela a déjà été prévu et sera aménagé selon les normes et suite à l'approbation de Pêche et Océans Canada.
Monsieur Dominique demande s'il est prévu d'installer un système de collecteurs pluviaux pour pallier aux problèmes d'accumulation d'eau.
Alors, pour l'instant, l'installation de drains pluviaux est en cours et est prévue depuis le début des travaux le long de la digue.
Monsieur Dominique demande si le budget adopté en février a été vérifié par des vérificateurs externes.
Alors, il n'y a pas d'audit qui est prévu pour l'adoption des budgets dans les villes. Toutefois, les vérificateurs comparent ceux-ci avec le rapport financier lors de l'audit produit annuellement.
Monsieur Dominique aimerait connaître le nombre de permis de démolition émis dans la zone inondée et combien de terrains ont été cédés à la ville.
Alors, actuellement, il y a 245 permis de démolition d'émis, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont déjà toutes été démolies. Et 56 terrains ont été cédés à la ville.
Monsieur Dominique demande comment se passera l'éventuelle vente de ces terrains. Il propose que cette vente soit effectuée sous la forme d'un encan crié afin de permettre à tous d'y participer, en évitant quelques malversations possibles dans le traitement de la vente des terrains.
Alors, je veux rassurer M. Dominique et la population que lorsque nous serons prêts, nous procéderons à la vente de ces terrains tels que prévus par la loi, comme nous l'avons déjà fait quant à un terrain qui était situé au nord du chemin d'Oka, non loin de la rue du bord de l'autoroute 640, et nous avions été en vente aux enchères. Alors, ça fait le tour quant aux questions. Moi, je voudrais, parce qu'on reçoit quand même des courriels entre les questions qui nous ont été transmises. Alors, je veux juste dire que quant au complexe aquatique, on est en attente d'une réponse du gouvernement pour une subvention supplémentaire suite à l'ajout au projet initial d'un bassin récréatif. On a aussi reçu des courriels, ou à tout le moins un courriel, où on nous demande la possibilité d'avoir un poulailler. Alors, nous allons analyser la possibilité de revoir notre réglementation qui, actuellement, ne le permet pas. Quant aux médailles de chiens, on est en organisation présentement et des renseignements seront transmis aux citoyens via les réseaux sociaux sous peu de la procédure à suivre. Alors, quant aux questions, je crois que ça fait le tour.
Moi, j'ai des questions, François Robillard.
Oui.
On termine la première question qui est déposée, le service incendie. Là, vous dites qu'il n'y a pas de... Vous vous opposez à ça?
Nous avons demandé à la Ville de Deux-Montagnes de reviser leur position.
OK. C'est que là, présentement, vous êtes au courant qu'il y a une résolution qui a été adoptée en janvier dernier par la Ville de Deux-Montagnes. Qui dit que le nouveau format du du service incendie va prendre forme le 14 septembre 2020. Dans à peu près 4 mois.
OK. M. Robillard, je vais tout de suite vous arrêter. Pour pouvoir faire ça, il faut absolument que la ville de Deux-Montagnes, pour faire quoi que ce soit, doit négocier avec le syndicat. Et il n'y a aucune négociation qui a encore été faite ou, à tout le moins, entente avec le syndicat. Donc, ils ne peuvent pas commencer à mettre des temps pleins tant qu'ils n'ont pas d'entente avec le syndicat.
OK. OK. Exemple, là, la semaine prochaine, il y a une entente avec le syndicat. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre en place le 14 septembre prochain le nouveau processus, la nouvelle figure là, du service incendie.
Alors, ils devraient tout d'abord rencontrer la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac parce que la dépense est beaucoup plus élevée qu'il faut se rapporter à l'entente qu'on a signée. Dès qu'il s'agit d'une dépense de plus de... Je crois que c'est 25 000 $. Il faut absolument que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac donne son OK. Mais là, c'est sous toute réserve le montant. Là.
OK, mais pourquoi c'est à ce moment-ci, sur cette question de citoyen, qu'on entend parler pour la première fois la possibilité de transformer le service incendie? Parce que c'est une transformation majeure.
Bien, M. Robillard, on en a déjà parlé. Il y a eu un citoyen qui est venu à l'Assemblée municipale pour nous en parler. Et je crois que c'est fin de l'année dernière ou janvier. On en a déjà entendu parler.
Ouais,
et vous-même en avez fait part en assemblée.
Oui, et vous avez dit que vous vous opposiez à ça. Sauf que suite à ça, il y a eu une résolution en bonne et due forme de la ville de Deux-Montagnes. Et puis, c'est un changement qui est majeur. Ça veut dire que dans la résolution, il dit que c'est la position de 40 postes temporaires, de temps partiel, et la création de 16 postes permanents et de, je crois, c'est 6 postes à temps partiel.
Oui, mais M. Robillard, à cause de la pandémie, nous devions avoir une rencontre avec la ville de Deux-Montagnes et les services incendies, ainsi que le gouvernement. Et malheureusement, à cause de la pandémie, tout ça a été annulé. Alors, on attend la rencontre avec le gouvernement.
Mais ça serait intéressant que les citoyens et que l'ensemble du conseil aussi soient au courant. Parce que, encore une fois, on est au courant de rien. Ces changements-là peuvent amener une différence. Parce que si on arrive à être en plein 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, ça veut dire que les pompiers, ils vont être en fait mars. Ils vont être contents dans la nouvelle terme.
Oui,
on n'a pas les infrastructures pour
faire
avoir des
pompiers
à temps plein
24/7. Oui, M. Robillard, on est au courant de ça. Et oui, et c'est pour ça qu'il devait y avoir une rencontre avec les autorités.
Est-ce qu'on va avoir un suivi là-dessus?
Oui.
C'est important, là. Et
oui,
il y a des grosses décisions, il y a des
oui. Points,
puis ça serait intéressant de savoir aussi les pour et les contre concernant ce changement-là. Parce que c'est bien beau que vous opposez, là, mais pourquoi vous vous opposez? C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'appels à ramener?
Mais c'est tout ça, M. Robillard, c'est tout ça qu'on a fait sortir. OK? On a demandé à ce qu'on nous sorte, qu'on nous donne les détails, combien qu'il y a eu d'appels au 911, combien qu'il y a eu d'incendies sur le territoire, et on devait se rencontrer pour en discuter.
OK, puis quand est-ce que vous allez mettre le conseiller indépendant dans le bain et puis l'ensemble de la population?
Mais quand nous aurons des informations, là, pour le moment, on n'en a pas.
Ça veut dire que vous n'avez fait aucune rencontre? Parce que un moment donné, c'est bien beau...
Monsieur Robillard, on a eu une rencontre et c'était avant l'adoption du budget. Et c'est tout ce qu'on a eu comme rencontre avec Deux-Montagnes. Et là, on devait en avoir une. Et si ma mémoire est bonne, c'était en mars. Et malheureusement, il faudrait que je regarde dans mon agenda, le tout est tombé à cause de la distanciation et la pandémie.
OK, parce que Zoom, Skype, c'est pas des plateformes qui sont utilisées couramment à Sainte-Marthe pour faire des réunions?
Bien là, M. Robillard, c'était le gouvernement qui devait être assis autour de la table avec nous. Alors, malheureusement, ils se sont désistés pour la rencontre. La rencontre a vraiment été annulée. Là. On pourra vous envoyer le courriel ou on nous l'indique, là, si vous voulez le voir.
Ben, j'aimerais bien ça, parce que malheureusement, il y a des événements qui se produisent, il y a des pourparlers, mais jamais vous me faites de compte rendu. Je pense que ça serait intéressant. Ça, je ne comprends pas pourquoi tu gardes le secret, là.
C'est beau. Oui, d'accord.
Prochaine question. Il y a eu des problématiques au niveau de la collecte la collecte de compost. Sauf que là, on a un camion qui passe à l'envers dans le sens unique, qui empêche le sens unique constante, mais qui recule.
Oui, Monsieur Robillard, vous avez fait une plainte formelle que vous avez transmise ici à la direction. Et à ma connaissance, on s'est occupé du dossier.
C'est correct. D'accord, oui. C'est juste que la réponse qu'on m'a donnée, c'est que pour certaines personnes, certains sous-contractants, on les autorise à passer à l'envers dans un sens unique.
En aucun temps, on vous a donné cette réponse-là. En aucun temps.
Non. Moi, on m'a donné cette réponse-là verbalement, comme quoi on autorisait les camions de vidange à passer à l'envers dans des sens uniques.
Alors, vous me direz qui vous a donné cette information-là?
Ben, c'est Monsieur le directeur général, M. Canlan.
OK. On va faire les vérifications, puis on vous reviendra.
Demander pourquoi qu'on ne fait pas la même procédure que les cul-de-sac, qu'on demande que les mondes ils mettent toutes leurs vidanges sur le même côté.
On va regarder, monsieur la jeunesse, voir si c'est possible.
Oui, parce que on est en confinement, mais bientôt l'école va recommencer, puis la rue François et aussi la rue André, qui c'est 3 ou 4 maisons qui a la problématique. Il va y avoir des enfants, beaucoup d'enfants qui vont s'appuyer, il va y avoir du working aussi pour déporter les enfants à l'école. Là. Donc, ça, c'est une problématique qu'il faudrait régler avant le 18 mai, 19 mai, là, quand ça commence.
C'est beau. Oui.
Ensuite, j'ai reçu une plainte, puis j'ai parlé avec le directeur général concernant la rue des Tilleuls. Il y a un terrain vacant qui est là.
Le terrain vacant, vous voulez dire là où il y a eu l'incendie?
Oui, exactement.
Le terrain est vendu, M. Robillard. Et il appartient à un particulier.
OK, parce que là, on a des plaintes concernant il y a une piscine creusée. Oui, elle est clôturée avec une clôture de quartier. Mais il y a des gens qui vont se promener, qui vont à l'intérieur de cette piscine-là, qui vont faire des feux, qui vont... Ben, je ne sais pas si le directeur général s'est supposé me reprendre, mais parce que là, c'est un système qui est sur un terrain vacant, il y a plein de clôturés, c'est qu'il n'y a aucune surveillance quand même. Là. Fait que je vois une problématique, j'aimerais pas que le service d'urbanisme puisse se pencher là-dessus. Là.
OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au service de police de faire une vérification et de faire une tournée dans ce coin-là plus régulièrement.
Parce que c'est pas une clôture de 4 pieds qui va empêcher le monde d'aller dans la piscine. Là. Parce que c'est sûr que là, avec aucune visibilité, aucune maison, ben c'est pas mal laissé à.
C'est bon.
Ensuite, j'avais sûrement reçu beaucoup de courriels concernant les poules.
Ben, j'ai reçu un courriel, M. Robillard, et en début, tout à l'heure, j'ai bien indiqué que nous allons analyser la possibilité de revoir notre réglementation et de voir ce qu'on pouvait faire pour réglementer pour que ce soit autorisé. Alors oui, on va travailler le dossier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant le début de la période de questions. Vos questions, je devrais plutôt dire.
Oui. Je n'ai pas compris.
Mais je viens de vous dire que j'en avais parlé tout à l'heure, que j'ai dit que nous allions analyser la possibilité de voir notre réglementation afin d'autoriser les poules chez les gens.
Oui. C'est ça. Je me suis mis à l'appartement de regarder la, la réglementation de Blainville. Puis aussi, je fais une suggestion que peut-être des formations aussi de web seraient intéressantes aussi parce que c'est bien beau d'avoir des poules, mais aussi en hiver, il faut s'en occuper. Puis je pense que c'est un aspect aussi de la garde de poules qui serait intéressant là, à donner de l'information.
C'est beau. On en prend note.
Les électoraux, le projet, vous avez pensé ça pour reporter la rencontre consultative plus tard. C'était quoi vos raisons de faire passer ça de 6 à 8 districts?
Tout simplement parce que nous devions de toute façon remanier à cause du nombre de personnes par quartier. Et la raison pour laquelle on a décidé d'aller à 8, c'était qu'on le faisait une fois et non pas le refaire cette fois-ci et le refaire une deuxième fois dans 4 ans.
OK. Est-ce que dans les 3 ou 4 dernières élections, est-ce que les trucs ont changé?
La dernière fois, je crois que oui.
Oui.
Et on se rappellera aussi que les gens qui étaient habitués d'être dans le district, je donne un exemple, le district 1, puis que là, maintenant, on les avait mis dans le district 2, mais là, ils étaient tout mélangés. Ben non, j'ai toujours été dans le district 1. Et c'était tout simplement pour aider la population, pour le moins possible les changer à chaque élection.
Et je peux vous dire que, comme le quartier 1 a changé à toutes les élections depuis les 4 dernières élections. Okay. Je pense pas que ça soit une raison valable que pour ne pas changer. De toute façon, en informant la population, je pense que tout le monde, si on les informe bien, ben ils vont savoir où aller voter et qui va être dans quel côté ils vont être. Juste pour savoir, il y a combien de personnes en tout se sont opposées au projet de règlement?
Je sais qu'il y en a plus que 100, mais là, de vous dire que la vérification a été faite, à savoir avec chaque citoyen, malheureusement, ça n'a pas été fait ici encore.
D'après moi, Mme Lagrassière a dû faire l'exercice, parce que d'après moi, si ça n'est pas fait, c'est envoyé à la commission de la représentation électorale.
En fait, on a fait les vérifications. L'important, c'est qu'on ait plus de 100 signatures, puis c'est ce qui est mentionné dans l'avis.
OK, mais vous n'avez pas le total des personnes qui se sont opposées.
C'est malheureusement pas une information que je peux donner.
Vous pouvez pas la donner?
Non.
Pourquoi? C'est secret?
Ben, j'ai fait la vérification avec la commission de représentation électorale, puis c'est les informations qu'on m'a données. Que dans le fond, je publie un avis pour indiquer si oui ou non j'ai eu plus de 100 oppositions, mais que c'est la seule information que je peux donner.
OK, fait qu'on peut pas savoir il y a combien de personnes à Saint-Marc qui se sont opposées au projet de référendum. J'ai de la misère à croire ça, mais si vous le dites, ça doit être vrai. Au niveau des dérogations mineures, je sais que vous en avez parlé dans votre élection au début. Mais je comprends pas pourquoi que la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière année et maintenant que là, on n'accepte plus de dérogation mineure pour les personnes habitant dans la ville?
C'est qu'on a eu une rencontre avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et on nous a indiqué que malheureusement, nous ne pouvions pas accepter de dérogation mineure dans la zone de la ZIZ. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous nous assoyons avec chaque citoyen qui aurait une demande de dérogation mineure tant et aussi longtemps que le MAMH ne nous donnera pas une autre version. Actuellement, nous ne pouvons pas les accepter. Alors, nous travaillons les dossiers individuellement de façon à permettre aux gens d'arriver à une conclusion qui est positive dans leur cas.
OK, parce que vous allez travailler individuellement. Il ne serait pas possible de changer la réglementation pour des dérogations, ou est-ce que on a eu un lot important, comme la hauteur du...
Ça, monsieur Rabillard, oui, nous allons modifier la réglementation, mais actuellement, j'ai des citoyens qui veulent construire, qui veulent avancer, et je devrais leur dire qu'il va falloir attendre 3 mois parce que je dois adopter un règlement. Alors, c'est de façon à faciliter la tâche à nos citoyens, qu'on les prend de façon individuelle, mais oui, on va modifier la réglementation et là, ça va être quant à la hauteur par rapport à la rue. Oui, ça va être des modifications qui vont être faites à la réglementation.
À la police, s'il y a une personne qui veut avoir son seuil de porte au-dessus de la hauteur permise selon la réglementation, mais si vous travaillez individuellement, on ne voit pas comment cette personne-là va pouvoir construire sa maison avec son seuil de porte au-dessus de la réglementation.
C'est très facile, c'est qu'on va au maximum de ce qu'elle peut faire par rapport à la rue. Et puis, si elle met 2 marches à l'intérieur de la maison, elle règle toute sa problématique.
Ouais. Donc, elle s'est pas, il reste quand même à la même hauteur.
Non, mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas la même chose.
Est-ce que le gouvernement est ouvert à... Parce que comme Sainte-Marthe est en zone d'exception par rapport aux autres villes, aux autres municipalités, est-ce que le gouvernement est ouvert à ce qu'on soit exceptionnel aussi au niveau des dérogations mineures?
Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure en début, que nous allions travailler le dossier avec le ministère des Affaires municipales, de façon à arriver à une entente.
Au niveau de la question du citoyen de la 33e avenue concernant le zonage, au lieu de reporter ça au prochain CCU, est-ce qu'il serait possible que l'urbaniste, le département d'urbanisme se penche actuellement sur le dossier pour qu'il y ait possibilité d'un changement ou d'une modification de zonage?
Mais actuellement, là, le service d'urbanisme est au courant de la problématique. Okay? Ils ont le dossier, ils le préparent pour justement le présenter au CCU.
OK. Puis pourquoi que le CCU a été annulé au début avril, je pense que c'est le 7 avril qu'il est trouvé dans le CCU?
Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre.
Encore une fois, ça fait retarder les dossiers là, en annulant le CCU, c'est que le prochain se retrouve au mois de mai.
Honnêtement, je ne peux vraiment pas vous répondre pourquoi il a été annulé.
Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des plateformes Zoom, Teams, Skype là, qui peuvent être faites.
Oui, on est conscient de ça.
OK. Il y a eu un tollé dans la dernière semaine là, au niveau de la 24e avenue concernant des terrains vacants là, qui sont en zone de la ville. Là. Est-ce qu'il serait possible de clarifier la situation une fois pour toutes pour que le monde arrête d'être inquiet? Parce que bon, il y a eu une rumeur comme quoi qu'il allait avoir des triplex, mais le zonage ne le permet pas. Il y a eu de la construction sans permis. D'avoir un
œil attentionné sur... Oui, on a répondu aux citoyens qui étaient inquiets. Là. Je le sais qu'il y en a qui nous ont écrit, il y en a qui nous ont téléphoné. Et effectivement, la pancarte de la compagnie, pour ne pas la nommer, là, c'est Cani, qui dit qu'il y a des 3,5, des 4,5 puis des 5,5 à louer et qu'il le met sur ses terrains vacants. Ça fait peur et les citoyens croient que à cet endroit-là, il y aura un triplex. On est conscient de ça.
Exact.
Ouais.
Facebook.
Okay. Mais on avise, on réécrit et on répond aux citoyens qui nous écrivent et qui nous téléphonent. Parce que moi, j'ai répondu à énormément de citoyens. Là.
Dernière question. 39e avenue, il y a eu Il y a eu de l'accumulation d'eau au niveau de la 39e avenue. Là. Il y a eu un courriel qui est envoyé.
Oui, M. Robillard, je me suis présenté personnellement sur la 39e avenue pour aller voir avec les ingénieurs de la ville et le directeur général. Nous avons étudié la situation et cette accumulation d'eau vient de l'écoulement d'un citoyen qui est sur la rue à l'arrière de ça. Et qui, pour, je crois que c'est 40e avenue, et il envoie son eau dans son driveway et l'écoulement de l'eau se rend à la rue. Alors, l'eau n'est pas absorbée nulle part. Alors, le service d'urbanisme est en train de regarder le dossier quant au citoyen qui envoie son eau parce qu'il faut quand même qu'on est responsable de nos eaux. Alors, il faut quand même qu'il garde son eau sur son terrain. Mais on a aussi regardé une autre possibilité quant à faire de évacuer l'eau qui s'accumule sur cette rue-là. Alors, la citoyenne a été contactée le même jour où on s'est déplacé pour aller dans sa rue. C'est bon? Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée? Monsieur?
François Racine propose.
Oui, et qui l'appuie?
Tranquille, Nicolas, l'appuie.
Alors, merci et bonne fin de journée.